informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Fogo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce lundi, une explosion sur un site d'orpaillage a fait une cinquantaine de morts et de nombreux blessés à Gomblora, localité située à une quinzaine de kilomètres de Gawa. À la une également, terrorisme au Burkina Faso. La ville de Titao a retrouvé l'électricité après 2 semaines d'interruption. Cependant, les populations ont besoin de vivres et de médicaments. Et puis des étudiants ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé ce lundi. Ils ont manifesté contre le rejet des dossiers de demande de certains étudiants comptant pour la 4e tranche des octrois de l'aide et prêts FONER. L'invité du jour est le docteur Daniel Kéré. Il est le directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, CEDAM. Avec lui, il sera question de la gouvernance actuelle du Burkina avec l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Une explosion sur un site d'orpaillage a fait plus d'une cinquantaine de morts et de nombreux blessés à Ngomblora, localité située à une quinzaine de kilomètres de Gawa, dans le sud-ouest du pays. Selon des sources locales jointes par Radio Omega, l'explosion serait due aux produits chimiques utilisés dans l'exploitation minière. De nombreux blessés ont été transférés au CHR de Gawa. Et puis, en sécurité au Burkina, dans la nuit de dimanche à lundi, le poste forestier de Bekui, situé dans la province du Tui, région des Hauts-Bassins, a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés. Des dégâts matériels ont été enregistrés, mais aucune perte en vie humaine, selon le communiqué du ministère de la Transition écologique et de l'Environnement. Sécurité toujours, cette fois-ci on va à Titao, dans le nord du pays. La ville de Titao était plongée dans le noir suite à un sabotage de la ligne électrique dans les encablures de Yu par des individus armés le 6 février dernier. Après 2 semaines de périple, Titao a retrouvé la lumière, l'électricité est enfin de retour. Nous avons recueilli le témoignage d'un habitant de la localité. Il a été joint au téléphone par Yaguba Wilio.
Depuis 10 heures, disons, on a l'électricité à Titao. Les activités de rémunération liées à l'énergie, le courant, les activités ont repris comme il se doit. On a aussi l'espoir que d'ici là, peut-être, la question d'eau va s'élever. Sinon, depuis que le courant est coupé, il n'y avait pas aussi d'eau dans les bonnes fontaines. Depuis que le courant est coupé, il y a près de 2 semaines, vraiment, on s'est débrouillé avec des torches. Et ceux qui ont des plaques solaires, ça c'est pour l'éclairage. Sinon, les activités liées au courant là, tout était fermé. On se regardait seulement. Il faut noter aussi que les téléphonies mobiles sont défaillants. Ça avoisine les 3 à 4 semaines. Les réseaux de communication sont très très défaillants. On n'arrive pas à communiquer à nos parents. Ils sont un peu partout. Voilà, hors de Titao quoi.
Les habitants de Titao, toujours dans une situation sécuritaire critique, ont des besoins de ravitaillement non encore comblés, car difficile d'accès, nous explique notre témoin. Les populations de Titao ont besoin de vivres, mais aussi de médicaments, nous dit-il. Je vous propose un extrait.
Actuellement, ce qui nous manque, disons, c'est le minimum pour survivre. Il nous manque les vivres, l'huile, les céréales, un peu de choses pour avoir à manger. Et aussi, nous demandons vraiment un ravitaillement de médicaments au niveau de nos districts pour pouvoir soigner un temps soit peu ceux qui sont malades. Et la question d'eau aussi revient parce que il faut vraiment te batailler pour pouvoir avoir l'eau. Donc, il y a tout ça. N'oublions pas aussi la sécurité et nous saluons des passages vraiment nos FDS et VDP qui luttent au corps et âme pour vraiment la recouverture sécuritaire. On peut dire que en ces 2 dernières semaines, ça commence à aller. Vraiment, nous saluons des passages vraiment nos FDS et VDP qui luttent corps et âme pour que vraiment la sécurité revienne. Titao, vraiment, ça va, ça commence à aller.
La situation sécuritaire du pays a conduit à un coup d'État le 24 janvier dernier. Le Parlement européen a enfin réagi sur la question dans une déclaration dont Radio Omega a obtenu copie. L'institution européenne, tout en condamnant le putsch, a demandé la révision de la clause d'immunité des forces spéciales. Pour le Parlement européen, cette réglementation viole les droits des victimes à la justice et la réparation. Le Parlement souligne qu'un retour urgent à l'ordre constitutionnel est impératif, y compris un retour immédiat à un gouvernement civil. Je vous propose des détails avec Bernabé Cabré.
Dans son communiqué, le Parlement européen demande aux autorités de réviser la clause d'immunité dans le statut des forces spéciales, cette unité militaire créée il y a moins d'un an et dont les membres ne peuvent être traduits devant les tribunaux pour tout acte commis au cours de leurs opérations. Le Parlement européen estime que cela va à l'encontre des droits des victimes. L'organisation européenne s'est aussi opposée à une probable collaboration entre les nouvelles autorités et le groupe Wagner. Pour elle, l'implication de ce groupe en Afrique de l'Ouest va à l'encontre de l'objectif d'apporter la paix, la sécurité et la stabilité au Burkina Faso et d'assurer la protection de son peuple. Elle souhaite d'ailleurs que les activités du groupe Wagner et d'autres entreprises militaires fassent l'objet d'un débat approfondi lors du prochain sommet Union européenne-Afrique. Le Parlement européen veut un gouvernement dirigé par des civils. Il a également fait savoir dans sa déclaration. Il a invité la communauté internationale à poursuivre le dialogue avec les autorités burkinabées afin d'assurer une transition démocratique vers un gouvernement dirigé par des civils, tout en identifiant des délais et des processus clairs afin de mener des élections inclusives et transparentes dans les meilleurs délais. En attendant, l'institution a demandé la libération immédiate du président Roch Kabore. Le Parlement européen a aussi souhaité que la communauté internationale accroisse son soutien financier et son aide humanitaire afin de répondre aux besoins urgents de la population burkinabé.
Je vous le disais en titre, des étudiants ont pris d'assaut les rues de la capitale burkinabé ce lundi matin, ce pour manifester contre le rejet des dossiers de demande de certains étudiants comptant pour la quatrième tranche des octrois de l'aide et prêts fonaires. Que voulez-vous qu'on fasse? Que va-t-on manger? Où va-t-on dormir? C'est l'interrogation de ces étudiants de l'Université de Ouagadougou, au siège du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Venus de plusieurs UFR, les étudiants ont exprimé leur ras-le-bol sur le rejet de 5000 dossiers de la structure. L'objectif de cette manifestation est de demander aux responsables de bien se comporter sur la bonne gestion du FONER, car c'est leur droit, disent-ils. Je vous propose le reportage de Moumouni Tamboura et Yagouba Wiliou.
Nous ne sommes pas des mendiants, on n'est pas venus pour mendier après les fonds. Mais non, la procédure qu'ils ont procédé pour rejeter nos dossiers là, ça ne nous plaît pas. Soit ils remettent nos dossiers, soit ils rejettent pour tout le monde et la règle est générale. Voilà.
Du dépit, de la colère, de l'exaspération, ces étudiants expriment leur ras-le-bol. Leurs dossiers de demande du prêt fonneur ont été purement et simplement recalés. Au bas mot, 5000 dossiers rejetés. Et cela, ces étudiants ne l'acceptent pas. Abdoulaye Zané.
Donc, il faut noter que les étudiants ont constaté, voilà, lors du dernier communiqué, que les fonds étaient disponibles. Et par contre, ils ont également constaté qu'il y a plus de 5000 étudiants qui n'ont pas été pris en compte. Voilà. Et on nous fait croire qu'il n'y a plus de session spéciale pour les dossiers qui ne sont pas pris en compte.
Nous sommes aux abords de la banque agricole du Faso à la Zaka. Et si les étudiants sont à cet endroit précis, c'est que la directrice du FONER participait à une rencontre au sein de la banque. Abdoulaye Zané.
Voilà, donc nous on était en train de voir dans quelle mesure la directrice pouvait venir, au moins ça, donner un message à ses étudiants. Au fait, ils veulent un message. Ils ne comprennent pas pourquoi les dossiers ont été rejetés. Ils veulent qu'on leur dise pourquoi les dossiers ont été rejetés. Voilà. Et maintenant, dans la mesure du possible, voir ce qu'on peut faire pour eux.
Sur place, la discussion s'engage entre la police et les manifestants, ce qui va faire baisser de peu la tension. Mais ces étudiants n'auront pas la chance de discuter avec la patronne du FONER. Bien avant cette étape, les étudiants étaient massés devant le siège du FONER depuis 7 heures du matin. C'est de là que la grogne a fleuri. contactée par nos soins, la directrice du Fauneur nous a fait savoir qu'elle ne s'exprimerait que devant la télévision nationale.
Et puis on parle cette fois-ci de la campagne agricole du Burkina sur la période 2021-2022. Une campagne qui s'annonce mauvaise, une situation très alarmante est décriée vendredi dernier par la Confédération paysanne du Burkina. Elle s'est prononcée sur la question au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Moumouni Yaro pour le compte-rendu.
La prévision de production céréalière de la campagne agricole 2021-2022 était d'environ 4 700 000 tonnes, mais elle connaît une baisse de 9% selon la Confédération paysanne du Burkina. Elle s'explique par le déplacement massif des populations fuyant leurs terres pour des raisons des attaques terroristes, la baisse de la pluviométrie, la COVID-19 ou le manque d'une politique d'irrigation. Marc Gansonré, secrétaire général de la FESCOPAB, Fédération des sociétés coopératives des professionnels agricoles.
Plus de 60%, les producteurs ont estimé que la campagne agricole a été très mauvaise. La situation est encore plus alarmante dans les régions du Nord, le Centre-Nord, du Centre-Est et de l'Est, où plus de 80% des exploitants agricoles ont apprécié très négativement les résultats de la campagne.
La situation alimentaire se présente donc difficile. 2,7 millions de personnes seraient dans le besoin d'aide alimentaire d'ici le mois d'août. Marc Gansonri.
Environ 67% des exploitants familiaux estiment ne pas pouvoir couvrir leurs besoins alimentaires. En conséquence, près de 2,7 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une assistance alimentaire d'ici le mois d'août 2022, soit 12% de la population globale.
Conséquence, les prix des produits agricoles connaissent une flambée, à en croire la Confédération paysanne du Burkina. Elle invite par ailleurs les gouvernants à prendre des actions de secours.
Tout autre chose à présent, la société Ipro Business a présenté vendredi dernier à la presse son projet de foire internationale des affaires et de la coopération IBCFR, prévu se tenir du 24 février au 28 février dans les locaux du CIAO. Eh bien, cette foire internationale se veut être un tremplin pour le renforcement des relations des affaires entre les opérateurs économiques burkinabés et turcs, d'où le thème de cette édition, contribution au développement des affaires en Afrique, enjeux et opportunités d'affaires entre la Turquie et le Burkina Faso. Yaya Diomandé nous en dit plus.
C'est dans l'objectif de booster les relations économiques turco-burkinabées que l'entreprise turque Ipro Business initie cette foire au Burkina. Les promoteurs attendent faire profiter les acteurs économiques burkinabés du développement industriel turc à travers cet espace d'affaires. Alassane Compaoré est le directeur général de Ipro Business.
C'est l'occasion aussi à nos entrepreneurs burkinabés qui sont dans les commerces un peu diversifiés, que ce soit le commerce général, le BTP, l'agroalimentaire, ainsi de suite, de venir aussi et profiter de cette occasion-là parce que c'est des opportunités à saisir. Vous avez la possibilité de rencontrer effectivement ces hommes d'affaires turcs-là dans plusieurs domaines auxquels vous pourrez échanger pour partager des expériences et pourquoi pas aussi des échanges de technologies. Et à l'issue de cela, notre souhait le plus ardent, c'est plus qu'il y ait des contrats de représentation d'une marque, par exemple.
Prévu se dérouler du 24 au 28 février prochain, la Foire internationale des affaires et de la coopération sera ponctuée d'expositions-ventes et de réunions d'affaires B2B, le tout autour de 9 secteurs d'activité. Alassane Compaoré, directeur général de Ipro Business.
Nous avons une série qui, en fait, ce sont des secteurs clés pour le développement. Vous savez, actuellement, avec l'énergie, c'est un secteur vraiment qui est en pôle, que nous devrons vraiment beaucoup mettre l'accent, qui va vraiment donner un plus au Burkina. C'est-à-dire, on va voir aussi l'agroalimentaire. Alors nous avons dit nécessaire que ce sont des secteurs qui vont faciliter les échanges. Non seulement ça sera du business, du win-to-win, comme on le dit, et ça va aussi permettre à chaque pays de pouvoir tirer profit.
L'entreprise promotrice de cette foire internationale, Ipro Business, est une société turque fondée par un Burkinabé résident en Turquie, évolue dans l'import-export, la logistique et le tourisme.
Or, de chez nous, au Mali, les autorités de transition ont adopté une nouvelle charte de la transition, charte votée à l'unanimité ce lundi matin par les membres du Conseil national de transition, le CNT qui fait office d'organe législatif provisoire dans le pays depuis la prise de pouvoir par des militaires. Cette charte qui vient d'être adoptée par les autorités présente plusieurs nouveautés. Il y a déjà le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 141 et aussi la durée de la transition. Dans le texte, il est aussi écrit que les élections présidentielles prochaines, dont la date n'est pas encore connue, vont marquer la fin de la transition. Toujours au Mali, le médiateur de la CEDEAO est attendu jeudi prochain à Bamako. Cette mission fait suite aux rencontres techniques qui se sont tenues la semaine dernière sur le chronogramme des élections et permettra de discuter des prochaines étapes avec les autorités maliennes, a annoncé l'institution sous-régionale ce lundi dans un communiqué. Et puis au Tchad, des notaires, huissiers et avocats excédés ont manifesté à N'Djamena ce lundi pour réclamer plus de justice. Ils étaient plus d'une centaine à battre le pavé de la Cour suprême jusqu'au ministère de la Justice, où ils ont remis une lettre ouverte à l'attention du président du Conseil militaire de transition. Ils se disent excédés par la recrudescence des barbaries humaines et des massacres de citoyens dans le pays censé être démocratique, excédés par les violations du droit à l'intégrité physique, excédés par la violation des droits humains et l'absence de l'autorité de l'État avec pour conséquence immédiate l'impunité, l'inégalité. La liste est loin d'être exhaustive, souligne Maître Ndjomia Germain, président de la Chambre nationale des notaires du Tchad.
L'invité du jour. L'invité du jour.
On ne peut pas dépolitiser l'administration, mais on peut faire la promotion de cadres compétents. C'est ce que pense notre invité du jour, le docteur Daniel Kéré, directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, CEDAM, interrogé par Denis Zungrana. Docteur Kéré estime aussi que le monde associatif n'a pas vocation à soutenir un président. Il gagnerait plutôt à faire des propositions concrètes au MPSR.
Docteur Daniel Kéré, directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Zungrana.
Paul-Henri Damiba, désormais président du FASO, il a prêté serment le 16 février dernier. Reçu donc au cours de notre émission, Dr Aboubakar Sango affirmait que le MPSR pouvait se passer de cette cérémonie de prestation de serment. Vous, Dr Kéré, quelle appréciation vous faites justement de cette affirmation de Aboubakar Sango?
Bon, il faut préciser déjà que dans les faits, le MPSR était au pouvoir depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Et l'idée de prêter serment, en réalité, ne vient que constater cet exercice de fait du pouvoir d'État. Et je pense que c'est beaucoup plus par rapport à des considérations liées aux questions internationales. Pour donner, disons, un symbole au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine et de l'ONU, que bon, et le régime s'inscrit dans une sorte de formalité institutionnelle, pour ne pas donner l'impression que c'est un régime d'exception qui vient de s'installer. Il faut inscrire beaucoup plus la prestation de serment dans cette dynamique.
Alors, juste après la cérémonie de prestation de serment, le lieutenant-colonel, donc désormais président du FASO, a tenu son premier discours. Vous, est-ce qu'il y a des éléments ici qui ont requis votre attention? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été oubliés? Ou bien vous pensez que c'est un discours à applaudir?
Il faut inscrire ça dans la logique même de la prestation de serment qui veut qu'il pose un tel acte. Et maintenant, en termes de déclaration, et un aspect quand même qui m'a semblé important, ils ont dit qu'ils ne sont pas un régime révolutionnaire. Et je pense qu'il faut mesurer la portée d'une telle déclaration. Quand on parle de révolution, bon, des gens souvent ont tendance à croire que c'est un régime d'exception qui va venir et brutaliser une partie qu'on estime être les exploiteurs du peuple et au profit de ceux qui sont exploités. C'est cette connotation-là qu'il a voulu déjà séparer en disant qu'ils ne sont pas un régime révolutionnaire. Mais dans les faits, c'est, quand on parle de révolution, le terme veut dire changement. Un changement radical, un changement profondeur, c'est ça la révolution en fait. Voilà. Mais le fait de le dire, c'est beaucoup plus pour donner des gages à l'opinion publique nationale et aussi internationale que c'est pas un régime révolutionnaire comme on en a connu par le passé. Et des aspects tels que la dépolitisation de l'administration, et à ce niveau, quand on parle de dépolitisation de l'administration, il y a parfois une mauvaise analyse qui est faite de la situation. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas dépolitiser l'administration.
Et pourquoi cela?
Quand un président vient, il va nommer les personnes avec qui il veut travailler. Il y a forcément des accointances politiques. On ne peut pas empêcher un chef d'État élu de nommer les personnes avec qui il veut travailler. C'est un fait. Il peut choisir de nommer des personnes issues de la société civile ou même de l'opposition, tout comme il aussi peut se fonder sur des personnes qui ont soutenu sa candidature. Le vrai problème de l'administration, ce n'est pas la politisation en réalité, c'est la compétence. Concrètement, lorsqu'une personne n'est pas compétente et est promue à un poste de responsabilité, ça pose un problème parce que cette personne est parfois oubliée de faire un certain prosélytisme politique. Et au besoin, en cassant toutes les compétences, en détruisant toutes les compétences pour pouvoir s'asseoir. C'est ça le vrai fond du problème. On ne peut pas dépolitiser l'administration. On peut l'annoncer, oui. Mais dans le fond, l'administration restera toujours politisée. Mais on le sentira moins lorsque un régime fait la promotion des cadres compétents. Il y a des personnes qu'on promeut à des postes parce qu'on veut effectivement que ces personnes-là financent le parti en retour. Parce que la machine électorale, la machine politique est vorace en ressources financières. Et lorsque vous êtes nommé à un poste pour pouvoir renflouer les caisses du parti, évidemment, parfois, il y a un problème éthique qui peut se poser par rapport à certaines décisions que vous allez pouvoir prendre. L'idéal serait d'abord que, premièrement, on essaie au plus, au mieux de discipliner le rôle de l'argent dans l'arène politique. Deuxièmement, la promotion des compétences. Un cadre qui est compétent, vous n'allez pas sentir son bord politique, même s'il en a.
Alors, Dr. Daniel Kéry, on parle de politiser l'administration, mais qu'en est-il également de l'armée, quand on sait que pendant le procès du Puccio, on a eu à comprendre par là qu'il y avait un peu des clans au niveau du RSP et tout, et cela se répercutait un peu dans l'ensemble de l'armée. Est-ce qu'au sein de l'armée, il n'y a pas un travail aussi qui mérite d'être fait?
Je vous réponds tout de suite que oui. Et l'avantage du Burkina Faso, c'est que c'est un tout petit pays, comme on le dit, un petit pays du savane où tout le monde se connaît. Donc, de la même manière, les magouilles, les différents détournements, les fraudes qui se passent dans le milieu civil, dans le milieu politique, sont connues des militaires. On peut également dire que dans leur milieu également, ce qui se passe là-bas est bien connu aussi des civils. Voilà, et parfois ça va ensemble. S'il y a des problèmes de corruption dans le monde politique, cela impacte le milieu des forces de défense et de sécurité. Et quelle légitimité, par exemple, le MPSA dispose pour pouvoir traquer les corrompus dans l'administration publique ou dans le milieu politique? Il faudrait d'abord qu'il y ait une queue dans l'armée. Que les différents audits qui ont été commandités par le président Kabore, et notamment la situation d'Inata, et les dizaines ou les centaines de milliards qu'on a injectés dans l'armée depuis 5 ans, qu'il y ait un audit très clair sur l'utilisation de ces fonds-là. Si déjà ce travail est fait au niveau de l'armée, vous allez voir que les civils vont commencer à trembler. Donc la vertu d'abord d'être imprimé dans ce corps-là et être transposé plus tard dans les autres corps. Et je poursuis, même la société civile, le monde associatif n'est pas là pour soutenir un président ou bien pour soutenir un opposant politique. Les associations qui ont soutenu l'avènement du MPSA gagneraient à lui rendre œuvre utile en faisant des propositions concrètes, notamment en termes de création d'emplois, en termes de développement, en termes de démocratie, et non pas organiser des marches meetings pour soutenir. Ils n'en ont pas besoin. Si vous voulez organiser une marche pour soutenir, disons, un président, il faut beaucoup de ressources financières pour ça. Ce n'est pas un acte qui est sincère. Et la vraie légitimité, la vraie popularité d'un homme politique, c'est quand il est en difficulté. C'est pas quand il est au pouvoir.
Donc pour vous, la solution, c'est quoi, Philippe?
La solution, en fait, c'est beaucoup plus le système politique qu'il faut réformer. Pas seulement les textes. Laurent Gbagbo avait proposé une idée, en tout cas avec un peu de recul, je me rends compte qu'elle n'est pas si mauvaise. Est-ce qu'on est obligé de proposer que le président soit élu par un suffrage universel direct? On peut revenir un peu à un suffrage indirect par l'Assemblée nationale. C'est l'exemple que je donne. Deuxièmement, il faut un peu rehausser le niveau, disons, de candidature de ceux qui veulent, par exemple, être députés ou conseillers municipaux. Je ne veux pas dire que j'ai le monopole des bonnes propositions.
Sans
mais je dirais que
différentes propositions.
Il faut réformer beaucoup plus le système. Parce que si on réforme juste les textes, on fixe des peines et autres, là, ça ne changera rien. Après la transition, le même système va revenir et la même politique va se réinstaller.
C'est ici que se referme cette édition mise en onde par Fidèle Compaoré. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme à l'écoute de Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.